Salut à toi, auditrice ou auditeur de Syllabes. Aujourd'hui, lundi 11 janvier, je suis en compagnie du musicien Wax Taylor, de passage à Rennes, au disquaire Les Enfants de Bohème, rue de Saint-Malo, pour la promotion de son nouvel album. Salut Jean-Christophe, alias Wax Taylor.
Salut.
Pour ceux dont les années lycées n'ont pas été bercées par les morceaux Que Sera, No Pity ou Say Yes, on va te présenter rapidement. T'es originaire de Normandie, de Vernon, où tu vis, où tu as actuellement ton studio. Tu fais tes débuts comme musicien dans les années 90, plutôt dans le milieu rap, hip-hop de la région parisienne. Tu bosses sur différents projets en collaboration avant de te consacrer à ta carrière solo sous le nom Wax Taylor, le tailleur de wax, littéralement, ou le faiseur de disques. Depuis 2004, Wax Taylor, c'est une multitude d'EP, 5 albums studio, un album live, un autre album de reprise orchestrale de tes morceaux, un album de remix, plusieurs nominations aux Victoires de la Musique, plus de 700 concerts dans le monde entier. Sacrée carrière donc, poursuivi aujourd'hui par ton nouvel album, The Shadow of Their Sons, sorti le 8 janvier. Avant de parler plus précisément de cet album, je voudrais en savoir plus un peu sur ton rapport au disque et au disquaire. Donc je l'ai dit, ton pseudo d'artiste évoque le vinyle, la wax. Aujourd'hui, la promo de ton nouvel album prend la forme d'une tournée des disquaires. Et avant ça, en 2015, tu réalisais le documentaire In Wax We Trust lors d'une tournée aux États-Unis, donc un documentaire sur les disquaires indépendants américains. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation à cet objet et à ces lieux que sont les disquaires ?
Ah bah déjà l'objet, je fais partie d'une génération qui a découvert la musique à travers le support, tu vois, à travers le vinyle. Le vinyle, ça a été mon premier contact avec la musique. Et puis après, tu l'as évoqué aussi, mes premières années dans le hip-hop, la galette de cire était présente. Quand j'ai monté mon premier label, la première idée, c'était de faire un vinyle, quoi. On fait partie de cette culture de la même façon que dans l'électronique qui a fait survivre le vinyle pendant les années 90, à l'époque où les multinationales estimaient que c'était un objet du passé. Et puis après, les disquaires, c'est un peu par continuité tout ça, c'est des passeurs en fait, c'est des gens qui sont là, qui sont en contact aussi avec les gens qui font découvrir de la musique. Donc pour moi, ça a toujours été important dans mon parcours. Et comme tu l'as évoqué, ouais, je suis allé même faire un film documentaire pour leur tendre un micro aussi, tu vois, pour avoir leur lecture sur ce qui se passe, parce que souvent on va se poser les questions sur l'avenir de la musique, mais en posant la question à des directeurs artistiques ou des directeurs marketing et pas à des gens qui sont en contact.
On va aborder maintenant ton nouvel album, The Shadow of Their Sons, qui sort 5 ans après ton dernier album studio. Comment est-ce que tu l'as envisagé ? Plutôt comme une relance dans ta production, comme une évolution ?
C'est un album qui vient à la fois dans une continuité, parce que c'est, je dis souvent, j'essaie de me renouveler sans me trahir, tu vois, parce qu'il y a des gens qui diront on reconnaît bien la patte Wax Taylor, etc. Peut-être même des gens qui diront il fait toujours la même chose, j'en sais rien. Mais et puis d'autres qui trouvent que c'est très différent. Moi, je trouve que la vérité, elle est entre les deux, tu vois, c'est ça, c'est se renouveler sans se trahir. Et puis après, il y a des états, il y a des humeurs, tu vois, par rapport aux albums, des envies d'essayer des choses. Je pense à il y a quelques années, j'avais fait l'album de Steve Rainbow From the Dark, qui est un album où j'avais envie vraiment de repuiser un petit peu dans justement l'enfance et la façon dont on se construit à travers ça. C'était l'axe. Le dernier, c'était un By Any Means Necessary. C'était un album qui était une sorte de road trip sur les routes américaines, tu vois, qui était plus un prétexte à brasser des sources d'inspiration pour moi. Et là, c'est un album plus d'humeur et de colère mesurée, en fait, par rapport au monde dans lequel on vit, tu vois, d'injecter quelque chose qui fait pas de moi un donneur de leçons, mais qui fait quelqu'un, une humeur, une envie de donner à penser, en fait, sur le monde qui nous entoure. Musicalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent tout à fait l'écouter sans véritablement se dire. Je suis pas par exemple quelqu'un qui me dirait, j'ai pas vraiment senti le côté politique ou je ne sais quoi. Ça me va parfaitement. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas, je cherche pas à faire du prosélytisme. L'idée, c'est pas ça. Mais au quotidien, tu regardes un peu comme tout le monde. Hein, tu regardes dans quel monde on vit et à un moment donné où je trouve qu'il y a une accélération. Depuis quelques années, là, des mécanismes en fait qui font notre société, notre monde occidental depuis 40 ans, on va dire, et que là, on a encore passé un cran, et que j'ai l'impression que c'est peut-être le cran de trop, le cran qui fait que ça devient vraiment difficilement supportable pour une grande partie des gens, et que j'ai l'impression qu'on a des gens en place qui sont tellement hors sol, c'est une banalité de le dire, mais qui sont tellement hors sol, qui sont plus conscients de cette cassure.
Sur le titre de cet album, The Shadow of Their Sons, littéralement l'ombre de leur soleil, est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette idée ?
Ça va compléter ce que je viens de te dire, tu vois, l'ombre de leur soleil au pluriel, c'est une figure allégorique, hein. Évidemment c'est pas le soleil, c'est une formule poétique pour dire la masse de la population, la masse du monde, c'est-à-dire 99% de cette population dont on fait tous partie, plus ou moins, qui se retrouve face à ce petit pourcent d'entre soi qui profite de ce soleil artificiel, ces lumières artificielles, ce petit monde qui se sont créés et qui est aussi construit de telle manière qu'il arrive à nous opposer. Et c'est ça la force de ce système, c'est de réussir à nous opposer au moment où on devrait être ensemble. C'est-à-dire les nuances, tu vois, c'est-à-dire ton voisin qui va être un peu plus riche que toi, ou ton voisin qui va avoir des allocations, et que, enfin, toutes ces conneries, tout ce qui fait que la société elle est scalée, et que pendant ce temps-là, on est en train de faire un concours en regardant qui est le plus grand milliardaire de la planète avec des chiffres qui n'ont plus aucun sens pour nous, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire d'avoir 200 milliards de personnes, c'est ce que ça veut dire.
Dans ce nouvel album, on reconnaît bien T'as pas de sonore, qui est un mélange dynamique de hip-hop, trip-hop, électro down tempo, à grand renfort de samples et notamment d'extraits de discours ou de dialogues. Ça parle beaucoup dans Wax Taylor finalement. À titre d'exemple, dans ce nouvel album, il y a le morceau Painted Black, qui est un extrait d'une performance de Jill Scott Heron, une figure tutélaire du spoken word américain et par extension du rap et du slam. Tous ces morceaux de culture que tu intègres dans ta musique, qu'est-ce qu'ils apportent ?
Des racines, d'où tu viens, d'où vient ce mouvement, et puis aussi des mises en perspective. C'est-à-dire que Gil Scott Heron, Painted Black, 1970, 50 ans après, tu prends mot pour mot et tu trouves que tout fonctionne, enfin dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que tu dis, tu peux le transcrire et te dire que ça peut être la réalité. Là, présentement, il te parle de la réalité d'un Afro-Américain à New York, à Harlem, mais ça pourrait tout à fait être transcrit, tu vois, dans le nord de la France pour une famille dans la précarité. Ça fonctionne. Et aussi, avec la chute qui est hyper importante, c'est-à-dire que la dernière phrase de son spoken, c'est « And tell them how bad things are down south ». Et ça veut dire, en gros, c'est un peu bon, « Vous plaignez pas, il y a pire ailleurs ». C'est ce fameux « Vous plaignez pas, il y a toujours pire ailleurs », et qui fait qu'on devrait, en fait, désamorcer, se dire que, bon, bah, finalement, on va peut-être pas trop se plaindre parce qu'on est dans un pays où on peut avoir une connexion à Netflix, où on peut avoir un smartphone, donc ça va, quoi. Mais c'est beaucoup trop simple et ça peut pas être construit comme ça.
Picture a man of nearly 30 who seems twice as old, with clothes torn and dirty. Give him a job shining shoes or cleaning out toilets with bus station crews. Give him 6 children with nothing to eat. Expose them to life on a ghetto street. Tie an old rag around his wife's head and have her pregnant and lying in bed. Stuff them all in a Harlem house. Then tell them how bad things are down south.
C'est un album aussi que j'ai pensé avec en ligne de mire des référents comme 84 d'Orwell, parce que on parle toujours de Big Brother, tu vois, comme raccourci, mais je trouve que c'est presque plus important de penser la novlangue. C'est ça que moi m'interpelle dans 84, c'est cette idée de la novlangue. La novlangue aujourd'hui, elle est omniprésente et c'est ce qui permet de faire avaler des couleuvres constamment. Voilà, des gens se présentent, proposent une politique complètement inégalitaire et ils nous expliquent qu'ils sont progressistes. C'est comme une espèce de bouclier, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire contre un progressiste ? C'est bien d'être progressiste, le mot, il sonne bien, tu vois. Et Orwell, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu relis 84, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de corrélations et même si la forme est très très différente, il y a des gens qui parlent aujourd'hui de soft power et c'est exactement ça. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, de tous ces mondes artificiels dont on est tous acteurs, hein. Je suis pas en train de montrer du doigt, tu vois, là encore, je suis pas donneur de leçons. Moi aussi, je regarde si j'ai des likes, moi aussi, tout ça. Mais il y a un moment donné, il faut être capable de juste relativiser. Ça peut pas être l'alpha et l'oméga de ton quotidien.
Globalement, tu vas aller chercher où ces extraits sonores ? Parce que chacun de tes morceaux est très très habillé par ce genre d'extraits.
Je pense que c'est nourri par, déjà, tu vois, on parlait tout à l'heure des racines, les gens que j'écoute. Quelqu'un comme Gil Scott Heron, je voulais l'inviter déjà sur mon deuxième album. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire et après, il est parti trop tôt. C'est une figure, quoi. C'est quelqu'un qui a nourri toute la scène hip-hop des années 80 et qui, moi, m'a pas ricoché, en fait. Tu vois, je suis venu à découvrir ce qu'il faisait. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses, par extension, des lectures par rapport à tous le mouvement des droits civiques en fait aux États-Unis, par rapport à tout ce qui s'est passé en France. Moi, mes lectures et mes réflexions, elles vont de Bourdieu en France au mouvement des droits civiques aux États-Unis. Tout ça, c'est très corrélé au final, parce que c'est toujours cette logique de reproduction sociale aussi dont parlait Bourdieu. C'est cette idée que aujourd'hui, tu vois, je suis dans la musique, c'est plus facile de faire carrière quand tu es le fils d'un éditeur à Paris que quand tu es le fils d'un ouvrier à Clermont-Ferrand. Ça, on a beau te dire avec Internet, c'est plus facile, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En marge, peut-être, il y a quelques arbres qui cachent la forêt, mais la réalité, c'est toujours cette reproduction sociale.
À t'entendre parler, on a vraiment l'impression que tu t'essayes de véhiculer des discours dans ta musique. Est-ce que pour toi, c'est nécessaire que la musique porte un discours ?
Non, c'est pas nécessaire. J'utiliserai pas ce terme parce que ça voudrait dire. Tout à l'heure, je parlais de ne pas être un donneur de leçons. Si je te dis que c'est nécessaire, je suis un donneur de leçons. Moi, j'écoute des choses super légères en musique. Hein. Je peux écouter un Pharrell Williams un matin. J'ai bien compris que Pharrell Williams avait pas envie de refaire le monde. Je prends l'exemple de Pharrell Williams. Je sais pas pourquoi. Je pourrais dire, tu vois, plein de choses. Hein, ou en rock, ou en machin. C'est pas du tout une obligation. Hein, c'est pas une injonction de dire tu fais de la musique, tu dois t'engager. Ou tu fais du rap, il faut que ce soit rap conscient. En France, on a aussi ce prisme, tu sais, de. de penser que le rap, avant le rap c'était politique. Non, les premiers rappeurs c'était des block parties, c'était Peace, Unity, Loving, Having Fun, c'était la fête et voilà. Donc il n'y a pas de règles, mais après c'est en accord avec toi-même et d'où tu viens, de tes convictions, et ça a toujours été là si tu veux pour moi. Je suis indépendant, pour moi c'est déjà un acte politique de dire voilà, je ne veux pas frayer avec certaines maisons de disques. J'ai refusé beaucoup de choses sur mon parcours, des collaborations qui me paraissaient douteuses, voilà, des compromissions pour passer dans des radios que j'ai toujours refusées. Voilà, après, pour autant, c'est aussi un combat de se dire, ça ne veut pas dire que tu restes dans ton coin et que tu n'essaies pas de diffuser. Moi, j'ai envie d'être diffusé. Ce que je veux, c'est la forme. C'est-à-dire que si demain, on me propose d'aller sur TF1 et de jouer un titre avec Jürgen Blackrock et de parler de politique, moi, ça me va. Ça n'arrivera pas. Mais si c'est possible, c'est cette idée de... Toujours ce questionnement de savoir si tu as envie d'être en dehors ou dans la matrice aussi. Tu vois, de se dire, est-ce que tu essaies d'amener des gens à réfléchir de l'intérieur ou de l'extérieur ? Chacun libre de penser par rapport à ça.
Puis toi, finalement, tu as réussi à tenir une position assez intéressante ou t'as eu un énorme public, t'as tourné dans le monde entier, tout en restant toujours indépendant. Faut préciser que cet album, comme beaucoup des précédents, est sorti sur ton label à toi, donc Lab Oratoire, que t'avais créé en 1998. T'es aussi un habitué des collaborations musicales. Et cet album ne déroge pas à la règle. Est-ce que tu peux nous présenter les artistes dont tu t'es entouré cette fois ?
Alors on va les prendre dans l'ordre. Il y a Mark Lenegan qui apparaît sur cet album. Donc là, je ne sais pas s'il est nécessaire de le présenter, mais c'est un grand nom du rock américain, indépendant aussi pour le coup. C'est un survivant de plein d'époques et une grande voix et quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc je suis hyper content d'avoir travaillé avec lui. J'ai travaillé avec Del de Funky Homo Sapiens. Donc là, c'est pareil, une grosse figure du rap américain. Il y a également Rosemary Stanley, chanteuse de Moriarty. Renaise de son état. Il y a Book Brown sur l'album, qui est une rappeuse de Détroit. Pareil, que j'aime vraiment beaucoup, scène indépendante. J'ai découvert une chanteuse qui s'appelle Adeline, qui est une chanteuse, on va dire, néo-soul, mais en général, je suis pas très très... C'est pas forcément mon credo, mais il y a quelque chose chez elle, en fait, qui m'a donné envie de faire un petit caméo avec elle sur un chorus. Elle est française, ouais. Elle est française, mais elle est aux États-Unis depuis près de 20 ans. Derrière ça, il y a D-Smoke. D-Smoke qui est voilà, un rappeur californien qui a une espèce de fraîcheur solaire en fait, qui mettait justement cette petite touche un peu plus solaire dans un album un peu plus sombre. Et puis Gil Scott Heron, pour moi c'est un peu particulier parce que c'est pas un featuring à proprement parler, c'est une figure, c'est un parrain fantomatique. Et puis Jürgen Blackrock, donc une rappeuse sud-africaine avec qui j'ai eu une vraie rencontre quoi, vraiment c'est quelqu'un avec qui il y a une connexion.
C'est beaucoup des artistes américains. C'est un milieu musical qui t'inspire actuellement ?
Ça a toujours été, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une obsession, tu sais, un peu primaire, américaniste ou je ne sais quoi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes américains que j'apprécie, que j'écoute, quoi, tout simplement.
Est-ce que ça traduit aussi des inspirations que tu as voulu convoquer dans cet album ?
Je sais pas si ça a véritablement... En tout cas, ce qui est le plus évident, c'est que les choix parmi ces artistes américains sont tournés souvent sur des gens qui étaient dans une démarche qui pouvaient comprendre la démarche de cet album. C'est-à-dire hein, quelque chose d'un petit peu plus... peut-être plus clair sur la ligne en termes de propos, même sur un D-Smoke, hein, où le titre est quand même beaucoup plus solaire, mais il y a quand même une prise de position claire en termes d'écriture.
T'as tenu à sortir cet album malgré la situation sanitaire actuelle, malgré aussi le blocage de la culture. Est-ce que c'était une forme de résistance de ta part ?
C'était complètement une forme de résistance et une forme de pas en avant aussi, de dire, de démontrer d'une façon ou d'une autre, à moindre échelle, d'envoyer une toute petite... contribution en fait à l'idée qu'on continue d'avancer, de vivre, de construire, qu'on est tous disquaires indépendants, acteurs de la culture aujourd'hui, victimes et en même temps cette infantilisation en fait moi me rend fou quoi, tu vois, je pense qu'on est tous conscients, on est tous responsables, les salles de concert c'est des gens responsables et c'est une façon de dire voilà, on peut continuer de faire des choses, on s'adapte, on nous a dit il y a quelques temps il faut vous réinventer, mais c'est ce qu'on fait tout le temps en fait, se réinventer, on n'a pas besoin que quelqu'un qui est hors sol vienne nous expliquer qu'on doit se réinventer, donc pour moi c'était une façon de dire ça et puis de rencontrer aussi parce que malheureusement la tournée va être décalée à l'automne prochain et c'était une façon de venir rencontrer des gens et d'avoir des discussions et d'envoyer des petits signaux. Ouais.
Toi qui as un petit peu roulé ta bosse dans cette industrie, comment est-ce que tu envisages l'avenir de l'industrie musicale et du spectacle dans les prochains mois, prochaines années ?
De toute façon, j'ai envie de te dire bêtement que on va voir la fin du tunnel. La question, c'est quand exactement ? Ça me paraît à peu près acté qu'on va forcément sortir de ce truc-là. En se disant que malheureusement, il va falloir être conscient que c'est arrivé, que là, c'est pas une réflexion sur la musique, mais de façon générale, c'est que si c'est arrivé une fois, ça arrivera deux ou trois, et que d'ailleurs, c'était pas la première. C'est juste qu'elle nous a pas touché de plein front les autres fois. Donc, nous, il va falloir qu'on fasse avec ces données-là. Et c'est aussi pour pour ça qu'il faut qu'on arrive à être capable d'être réactif. Et je pense que voilà, la première fois, évidemment, il y a cette espèce de chaos de ne pas avoir eu le temps d'anticiper. Aujourd'hui, on a du recul et je pense qu'on est capable de réfléchir à des solutions.
À ton avis, il y aura un genre de retour à la normale ou au contraire une forme de réinvention radicale ?
Non, je crois pas une réinvention radicale. D'abord parce que la vie reprend ses droits et que objectivement on va tous retomber sur un moment donné sur une sorte de normalité. Mais il y aura forcément des stigmates et des choses, et peut-être qu'il y aura des choses positives qui vont en sortir aussi. Tu vois, il y a toujours des moments comme ça où heureusement on arrive à garder le meilleur de certaines périodes. On verra.
Take a look at the music industry and try to see what happened.
I don't know why you're looking for it.
Getting the record on the radio.
That's the title of the big tune.
And it goes like this.
Some promotion men for big record companies use a variety of illegal approaches to get radio play for their records.
Please, whatever job he takes, make sure it's something quiet.
Pop music is not just an ordinary business. With the listeners mean revenues. That best-selling record albums.
Run by very organized people. Very organized. An amateur like you can't go up against professionals.
Good qualities. Ethics, you know.
They come. We are not serious.
There is no professional ethics.
Because huge amounts of money are at stake.
The question is, how far will they go to achieve their objective?
Getting the record on the radio. Play it again, again, and again. Fight hard to get their records on the air. Play it again, again, and again.
On the radio.
On the air. Tight playlist.
On the air.
Top 40.
On the air.
Top 30. Top 20. Or even fewer.
The record business is a business of big winners.
The story begins with
a hit single and a hit album and get them on TV.
The vicious game.
Paying them anything, anybody at a radio station, to get a record played.
Run by very organized people. Very organized.
It isn't fair.
Drugs used to get a record played on the radio.
Did you see that kind of thing?
Be bad, be naughty, say it, do it.
Formula for success, getting the record on the radio. Play it again, again, and again. Fight hard to get their records on the air. Play it again, again, and again.
You understand that?
On the air. Tight playlist.
On the air.
Top 40. Top 30, top 20.
Next day, number one, baby.
You are crazy. You can't fuck with these things.
I know I can't, but I did.
It also brings us to the end of the first part. But whatever you do, stay tuned for part two because it's going to be more than exciting. Exciting.
There's no evidence of that, you say. There must be other explanations.
You're in shock. Trust me.
You've got no right to say that.
You all know the rules.
You got a big one. And there are very few. But when you catch a hit, when you catch a big winner, the earnings are incredible.
Getting the record on the radio. Play it again, again, and again. Fight hard to get their records on the air. Play it again, again, and again.
Now here again.
Getting the record on the radio. Play it again, again, and again. Fight hard to get their records on the air. Play it again.
The same thing over and over and over again.
On the air. Tight playlist.
On the air.
Top 40.
On the air.
Top 30. Top 20.
Well, congratulations.
I just killed.
hold your fucking radio.
Normal programs will be interrupted to give later on the spot reports if they are received. Meanwhile, we go back to our scheduled programming.